campus.
Camarades et amis, nous vous annonçons une nouvelle heureuse exaltante.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus.
Je suis toujours amateur. J'ai parlé avec tous les professionnels actuels et ils regrettent tous d'être passés professionnels. Alors, je ne vais pas commettre la même erreur que...
En 1965, la guerre du Vietnam bat son plein. L'Amérique a envoyé ses GIs au sud.
Contestation rime avec répression. Contestation, répression.
Le cortège est protégé par 5 véhicules blindés et un hélicoptère.
Ce sont aussi les premiers bombardements de l'US Air Force au nord. 65, c'est aussi la crise de Saint-Domingue.
Cette mesure provoque une vague d'émeutes d'une ampleur exceptionnelle. 24 morts en 3 jours et des troubles. Échec d'un coup d'État, toujours des campagnes turiques au palais de la Syrie.
De plus en plus, l'Amérique s'érige en gendarme du monde. Et Ben Barka ne cesse de dénoncer partout où il se rend l'impérialisme de l'Amérique et de ses alliés.
Il a provoqué une rébellion militaire qui a abouti à une loi d'Alfonsine, selon laquelle les militaires d'un rang inférieur à celui de colonel n'étaient plus passibles de poursuites.
Ouais, bah, j'ai connu un mec de droite une fois, il avait 10 fois plus de clash.
Washington est en feu. Les Noirs descendent dans la rue, plus de 500 magasins ravagés, des quartiers entiers incendiés. Bilan, 7 morts, 1200 blessés.
Ah.
Bonsoir et bienvenue à vous pour une nouvelle édition d'Abaton Rompu, magazine d'information sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours. On est arrivé en courant, on est un peu essoufflé, on va se poser tranquillement. Asma, bonsoir.
Bonsoir Hassan, bonsoir à tous.
Ce soir, tu nous parles de Vincent Gaulier.
Oui.
Auteur, réalisateur de documentaires.
Oui.
Que tu as rencontré au cinéma Les Karmas à Orléans.
La semaine dernière.
Il était venu présenter un documentaire.
Oui,
tu
voilà.
Tu nous parles de tout ça. Steven, bonsoir.
Bonsoir Hassan, bonsoir à toutes et à tous.
Mardi dernier, tu as assisté toi à la présentation d'un livre à la librairie
c'est
Les
ça.
Temps modernes.
C'est exactement. Trahir ou évanger de Laëlia Véron.
Qui est enseignante ici à la faculté de lettres, je crois.
C'est ça.
C'est ça. Ouais. Marine est avec nous encore cette semaine.
Oui, bonsoir.
Bah, c'est que ça t'a plu la semaine dernière, donc.
C'est ça.
Bon, bah, voilà, tu vas nous accompagner. Pourquoi pas faire des sujets pour nous ? Ça serait génial.
Pourquoi pas plus tard, oui.
Rappelle-nous, hein, tu es étudiante enfin, tu veux faire du journalisme.
C'est ça.
D'accord, très bien. Nous avons aussi Mourad Guichard pour démarrer cette émission. Vous le savez, toutes les semaines. Mourad Guichard, journaliste indépendant, qui décrypte avec nous l'actualité. Et hier, Mourad a rencontré, non pas rencontré, il a suivi le secrétaire national du Parti communiste qui était dans le coin.
À bâton rompu avec Hassan Kerim.
Bonsoir Mourad.
Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à toi Hassan.
Bienvenue à toi dans Abaton Rompu pour ta chronique de début d'émission. On commence cette chronique avec la visite hier à Orléans, à la chapelle Saint-Mamin exactement, du secrétaire national du Parti communiste français. Fabien Roussel était à Orléans pour soutenir
oui.
hein, les salariés de l'entreprise Duralex et tu y étais.
Oui, absolument. Alors, j'étais pour en reportage toute la journée, enfin toute la journée, une partie de la journée pour l'Humanité, donc à retrouver sur l'humanité.fr notamment, et dans les colonnes de l'Humain. Le but, alors pour résumer un peu la situation, et c'est ce que disait l'un des salariés que j'ai pu rencontrer et interviewer, il me dit, ouvrez les guillemets, on pourrait faire une série sur Netflix tellement il y a d'épisodes de crise dans cette entreprise en fait depuis des années. Effectivement, moi je suis là depuis une vingtaine d'années, j'ai toujours connu des épisodes de crise avec des patrons voyous. D'une part, avec des problèmes de gestion d'autre part. Et puis, il y a eu notamment l'épisode turc où le patron était venu clairement piller l'entreprise pour aller exporter vers la Turquie et arroser au détriment de la France une partie de l'Europe de l'Est et donc et de l'Asie, pardon, de l'Asie centrale. Et donc, voilà, il y a une espèce de comme ça de... c'est une marque, ce sont des brevets, c'est une marque extrêmement populaire, tout le monde connaît Duralex. Ce sont des produits sérieux, ce sont des produits fiables qui résistent, comme vous le savez, qui résistent notamment au choc. Voilà, c'est un vrai savoir-faire, mais malheureusement, là, on est passé, par exemple, de 5 lignes de four, donc les lignes pour fabriquer les verres, on est passé de 5 lignes, les verres et les Tupperware, on est passé de 5 lignes à plein régime à 2 lignes aujourd'hui.
Ouais.
Et ceci, malgré 15 millions à peu près d'euros de subventions publiques, sans contrepartie. C'est bien ce qui pose question. Et c'est la question qu'a notamment posé Fabien Roussel, Fabien Roussel et Sylvain Amrath, qui est l'un des candidats aux élections européennes pour le Parti communiste et qui est du Loiret. Il y a eu plusieurs explications de la part des salariés, des représentants des salariés, notamment sur la question, puisque alors Fabien Roussel lui a essentiellement soulevé la question énergétique, hein, du coût de l'énergie. Il va demander au ministre de l'Industrie d'intervenir pour que les entreprises n'aient pas à avoir des factures énergétiques aussi lourdes, parce que vous imaginez bien que pour fabriquer du verre, il faut du gaz, il faut de l'oxygène, enfin il faut toute une série de choses qui coûtent aujourd'hui très cher, l'électricité bien évidemment, qui coûte excessivement cher, et donc il a promis d'insister avec la maire de la chapelle Saint-Mémin notamment, d'insister auprès des pouvoirs publics pour que Duralex puisse sortir la tête de l'eau tout simplement.
Tu le disais, hein, les verres Duralex sont connus à travers le monde, et la question que tu as posée à Fabien Roussel, c'est celle-ci, c'est est-ce qu'on peut insister là-dessus, sur le fait que ces verres-là sont connus à travers le monde. On vous écoute.
L'attachement des Français à cette marque Duralex, puisque tout le monde nous parle de l'âge qu'on regarde dans le fond du verre, et ainsi de suite. Est-ce que vous pensez que ça peut être exploité, ça, pour maintenir
sûr,
cette boîte?
Mais bien sûr, tout le monde connaît ces verres avec l'âge au fond, tout le monde a bu dedans, et on doit continuer à boire de l'eau dans les cantines, une bonne bière ou un bon vin dans les troquets.
Du coco.
C'est la marque française. connu, avec un verre particulier qui justement ne casse pas facilement, et donc un verre trempé. Et c'est pour ça qu'on doit défendre cette marque française, historique, ancrée ici dans cette région. Et c'est un savoir-faire, d'ailleurs, où les régions et les départements peuvent aussi être utiles, parce que ce sont eux qui peuvent passer des commandes importantes pour les collèges et les lycées de France. L'État peut agir pour les casernes, pour la police, la gendarmerie. L'État a une commande publique importante. Continuons à boire des verres provenant de Duralex ou d'Arc, mais français.
Mais français. Alors, un mot d'explication, Mourad, quand même, parce qu'on est entouré de jeunes. L'âge au fond du verre, c'est quoi ?
Alors l'âge au fond du verre, en fait, c'est le numéro du four, de façon à pouvoir retrouver s'il y a un défaut, à pouvoir retrouver où le bas blesse, tout simplement. Et donc, il y a toujours marqué 5, 25, 41, 62, et ainsi de suite. Et donc, en fait, ça correspond à c'est un peu l'équivalent, on va dire, d'un numéro de série qui permet aux fabricants de repérer d'où viendrait un lot, par exemple, qui serait pas clean. C'est vraiment une traçabilité, en fait. Et donc, tous les enfants de France, de Navarre, et puis là, même des personnes très âgées qui étaient présentes, expliquaient leur présence par le fait qu'elles regardaient ou ils regardaient leur âge dans le fond du verre à la cantine quand ils étaient petits. Donc vraiment, ça, c'est quelque chose de très très populaire, hein, qui a marqué des générations entières, qui continue de marquer des générations entières. Et c'est d'ailleurs ce levier-ci également qu'avaient souligné les élus présents, savoir qu'il fallait, notamment Fabien Roussel, qu'il fallait inciter très fortement les collectivités locales, alors en l'occurrence les conseils régionaux, dont dépendent les lycées, les conseils départementaux dont dépendent les collèges, et évidemment les mairies dont dépendent les écoles primaires, au fur et à mesure de renouvellement de leur stock, de privilégier évidemment des verres français en circuit court, en l'occurrence ceux de Duralex.
Les collectivités locales se sont mobilisées quand même assez vite. Jeudi dernier, c'était conseil régional, la session plénière du conseil régional. François Bonneau, le président, s'est excusé vers 14h. Il y avait une réunion de prévu avec d'autres collectivités locales et la préfète du Loiret pour parler de Duralex. À son retour, on lui a tendu le micro.
Pour dire à la fois notre soutien, pour dire notre volonté d'agir collectivement pour trouver les voies et moyens d'une reprise. Il n'y a pas de résignation, c'est une situation extrêmement lourde, extrêmement grave, il ne faut pas se le cacher, mais il y a une vraie volonté de chercher des moyens de faire repartir cette entreprise. 230 salariés, des gens hyper qualifiés, hyper responsables, un outil qui a commencé sa mutation puisqu'un certain nombre d'investissements avaient été faits. Il faut absolument, par-delà le coût de l'énergie, par-delà l'évolution du marché, que cet outil qui fonde véritablement une partie de notre souveraineté industrielle puisse repartir. C'était important de dire que nous allions agir, État et collectivités territoriales, tous ensemble, avec éventuellement la volonté d'aller chercher à l'international, agir communément pour faire repartir cette entreprise. Nous le voulons, nous ferons tout pour cela.
François Bonneau qui parle aussi de partir à l'international, et tu le disais tout à l'heure, Mourad, il y a eu cet épisode avec un directeur ou un président d'une entreprise turque qui avait un peu floué les gens.
Oui, absolument, absolument. Il y a eu plusieurs repreneurs étrangers. Alors évidemment, j'ai rien contre les repreneurs étrangers, sauf que là, ils partaient avec une espèce de vision qui n'était pas celle de l'intérêt des salariés. Il en reste maintenant 230. Et en tout cas, pas de pérenniser l'entreprise comme elle devrait l'être. Donc, il y a un vrai problème. Et le problème de fond, je pense effectivement que de conditionner les aides serait déjà un premier pas. C'est-à-dire, on vous donne de l'argent uniquement si vous l'investissez dans l'entreprise de la Chapelle Saint-Mémin, uniquement si vous l'investissez dans le recrutement, dans la fabrication. Enfin, voyez, c'est pas ça. On peut pas recommencer une énième fois l'attribution de subventions à des hauteurs vraiment très importantes, je parlais de 15 millions d'euros tout à l'heure, sans qu'il y ait de contrepartie. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, c'est d'avoir un repreneur qui ait un vrai projet de développement industriel, et ça rentre dans, même s'il s'y prend un peu tard et du bout des lèvres, ça rentre dans la volonté de Macron de réindustrialiser la France. Commençons déjà par maintenir l'industrie avant de la réimplanter, évitons qu'elle ne meure. Et là, franchement, pour l'instant, les pouvoirs publics sont pas tout à fait sur ce diapason-là.
Ouais. Alors, prochain épisode, demain, je crois, tribunal administratif à Orléans.
Mercredi 16h, ouais, oui, absolument.
Pour savoir s'il y aura un administrateur de nommer pour Oui, suivre les affaires.
Tout à fait. Et donc la CGT notamment et le Parti communiste appellent à un rassemblement devant le tribunal demain, donc tribunal de commerce d'Orléans à 16h.
À 16h, hein. Rendez-vous pris. Avant de te laisser, Mourad, je voulais qu'on réagisse parce que c'est quelque chose qui est arrivé en début d'après-midi là. Mathilde Panot, députée LFI, est convoquée par la police, je crois, pour l'entendre sur un appel à apologie du terrorisme.
Apologie du terrorisme.
Voilà. Mais alors. Mathilde Panot, après Rima Hassan qui est sur la liste LFI, d'autres qui ont été sur ce conflit entre Israël et le Hamas, entre guillemets bien entendu, t'as quoi comme réaction là-dessus?
Bah, j'ai envie surtout de pointer ceux qui ne sont pas convoqués, c'est-à-dire je pense à Meir Habib, et ses outrances régulières, son racisme anti-arabe, son racisme anti-palestinien, qui lui n'est absolument pas inquiété. À aucun moment il a été question de lever son immunité parlementaire, pour une simple et bonne raison, hein, c'est que c'est un très très proche de la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, qui voue qui est complètement bloqué sur la position du gouvernement Netanyahou, qui est un soutien indéfectible de ce qui se passe en ce moment. Là, commence à mettre un petit peu d'eau dans son vin, parce que bon, là, ça commence à se voir un tout petit peu au bout de 35 000 morts. Mais elle défend Israël de manière inconditionnelle, et donc forcément, elle protège Meir Habib, qui a les pires outrances du monde et qui n'a sans commune mesure. Il a traité les Palestiniens de cancer.
Tout à fait.
À l'antenne, donc l'antenne de Radio J, je crois.
Oui, ça.
Mais ça, c'est juste inadmissible. Donc il parle de Judée Samarie. Il parle religion pendant qu'on parle géopolitique. Il est droit international surtout. Donc ce qui se passe là, ça va alimenter une fois de plus le deux poids deux mesures entre les gens qui défendent le peuple palestinien victime d'un génocide et qui défendent évidemment l'instauration de deux États sur ce même territoire avec les mêmes droits et donc qui combattent l'apartheid, et puis les soutiens de Netanyahou et de l'extrême droite la plus raciste, la plus réactionnaire, la plus théologique qui soit, mais qui malheureusement sont, et moi je le vois puisque j'anime une critique média, donc sur le Média TV, je vois que le temps d'antenne occupé par les soutiens d'Israël sont largement supérieurs à ceux des Palestiniens. Et là, on criminalise ceux qui appellent à la paix, au cessez-le-feu et à une solution à deux États. Donc je trouve ça lamentable, et là je pense que tous ces imbéciles, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, tous ces imbéciles se tirent une balle dans le pied, puisque alors qu'on devrait tous combattre l'antisémitisme, là ils donnent des éléments de langage, des armes et des raisons d'être aux antisémites, aux vrais, qui évidemment sont heureux de pouvoir souligner et pointer ça, notamment sur les réseaux sociaux.
Ah oui, tout ceci est frappé au coin du bon sens. Merci Mourad. Tu parlais de l'œil de Moumou. Alors, ça y est, c'est dans la boîte demain soir.
C'est dans la boîte. Ce sera demain soir à partir de 20h, 20h30
voilà,
sur le Média TV. Mais ça a retrouvé évidemment sur la chaîne YouTube du Média TV en libre accès de manière pérenne. Donc je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil, sans jeu de mots, et puis à ne pas hésiter à commenter, parce que je lis toujours avec intérêt les commentaires, j'essaye d'y répondre quand ils sont pertinents, donc j'espère à très bientôt par ce canal.
Je suis sûr que nous sommes, je le sais d'ailleurs, nous sommes quelques milliers d'aficionados, l'œil de Moumou sur le Média TV. Merci à toi Mourad, rendez-vous.
Merci infiniment à vous, avec grand plaisir.
Ciao, ciao.
À la fois Cerbère et séquestré, je peux aimer, je peux détester, je peux me barrer, je peux rester, les deux bras dans l'engrenage, je parle pas le même langage. Ma daronne était fan de ménage, si je ne suis que de passage, que ce soit mon préféré, que ce soit mon statut de pestiféré ou de sale parasite, change de paradigme, vu ce que ça me coûte d'essayer d'atteindre le paradis. Mais l'échelle est trop courte, les parois ont la police, douleur sourde propice à la folie, peur que la vie ne me maudisse. Vieux, dis-moi tout de suite où est-ce que je creuse, avant de devenir effrayant comme une famille noire et nombreuse. Ne sois pas si sombre. Sombre. J'accuse le coup, l'âge, non, le doute, c'est tout.
Des devants souvent avec une braise qui tombe et c'est l'incendie. Le terrain est sec. Cette époque peut brûler. Je reste à 37. Sans affect. L'espoir de lendemain qui chante. J'en ai bouffé à toutes les sauces. Tellement infect. Plus le jargon d'une secte. Ok, ce que ça crée en moi, je l'ai là stocké. Dans ce que je n'oublie pas, ni ose me rappeler. J'ai fait le tour de mes spectres, sans me caresser le nombril. Déjà une bonne chose de faite. Ne sois pas si sombre. Sombre. Plus fiévreux que formidable. Plus maghrébin que magicien. Je fais des feux dans le dos du diable. Des feux dormants, des feux errants. Des feux de bois de chagrin qui réchauffent l'air de mes souterrains. Un rien de lueur dans leur galerie. Il arrive qu'on retrouve un chemin après avoir flingué sa vie. Les tréfonds du cœur sont une chambre noire. À force de toujours buter, à force de chansons fauchées, mes alphabets cachés finiront bien par s'en arracher. Faut bien qu'il y ait un sol sur lequel marcher. Une main pour toucher, des yeux pour se taire. Une pierre pas trop amère pour les aiguiser. Ce qu'il faut d'amour et de foi pour cautériser. Ne sois pas si sombre. Sombre.
La rumeur, le groupe de hip-hop légendaire sort un nouvel album, messieurs, dames. C'est prévu pour ces jours-ci ou si c'est sorti, je ne sais plus. En tout cas, il devrait s'appeler « Ne sois pas si sombre ». Et à l'instant, abattant en plus sur Radio Campus Orléans, Radio Campus Tours, c'était le titre qui donne son titre à l'album. Donc, « Ne sois pas si sombre ».
Abattant rompu sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours, tous les mardis de 19h à 20h.
Asma était au cinéma.
J'étais au cinéma.
Alors, oui, alors vas-y. Est-ce que tu t'entends, toi?
Ouais.
Mais je crois qu'on ne t'entend pas. Alors vas-y, change de micro. Change de micro. Mais qu'est-ce que c'est? Non, j'ai un souci avec les micros, en tout cas.
Oui.
Non, on t'entend ici dans les studios, mais pas à l'antenne. Alors il y a un problème. Je vais remettre un peu de musique et on revient vers vous. Je crois que c'est bon.
C'est bon, oui. Moi, je m'entends. Bon. Ouais, toi aussi, Steven,
ouais, là,
tout le monde s'entend.
Je disais après le jingle, parfait. Asma était au cinéma.
Asma était au cinéma. J'étais au cinéma des Carmes la semaine dernière, où j'ai vu donc un documentaire, le nouveau documentaire, il ressort, mais il était déjà initialement sorti en 2022. Le documentaire de Vincent Gaulier, qu'il a co-réalisé avec Raphaël Girardeau. Le documentaire s'appelle « Que m'est-il permis d'espérer ?» Il a été tourné entre 2016 et 2018 dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile en plein Paris, au sud de Paris, ou au nord de Paris, il me semble, ou au nord de Paris. Le documentaire filme donc de très près au cas par cas des réfugiés. Évidemment pas tous, mais parce qu'il y en a vraiment, je crois que le camp a accueilli 40 000 exilés. On suit le parcours de quelques-uns d'entre eux. Donc ça démarre avec... des migrants qui arrivent, qui déposent un nom, une année de naissance, un pays d'origine, une empreinte. Et petit à petit, la caméra se rapproche, on les voit de très près, on voit leur visage. Et on a vraiment le sentiment d'être avec eux. Et ils vont se livrer sur leur histoire personnelle. Le film a pour projet donc de montrer tous les pans de l'arrivée d'un exilé. C'est très concret, comment l'accueil se passe. Et on voit que c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a deux dimensions de l'accueil. Il y a d'un côté l'accueil humanitaire, très engagé, au plus près d'eux. Qui est du coup dans le traitement au cas par cas, et un accueil administratif qui les traite quasiment à la chaîne. On écoute Vincent Gaulier en parler.
Ce que raconte toute la première partie du film, la grande, grande première partie du film, c'est l'histoire de l'accueil. En fait, nous, on fait un film, au-delà de ce qu'on raconte là, sur la question de l'accueil. Et en fait, tout en France est fait pour que les gens soient accueillis dignement, comme des êtres humains. C'est-à-dire que les associations sont là, qu'elles soient en effet médicales, de logistique pour les vêtements, pour la bouffe, pour que les gens dorment. Donc ces associations existent, sont payées en partie par l'État, sont payées en partie par les dons des gens. Et donc il y a une vraie, comment dire, un vrai sens humanitaire qui existe en France. Je veux dire, n'en déplaise à tous les racistes et à tous ceux qui pensent que on ne peut plus vivre avec eux. Non, c'est pas vrai. Je veux dire, tout le monde est là et cet accueil-là est très fort. Et après, là où on retombe sur ce que vous racontiez, c'est que il y a une autre réalité, c'est l'accueil administratif qui fait que les lois sont mises en place pour que on n'aide pas ces gens quand ils arrivent et que, en effet, ils sont hors sol et qu'ils sont pas aidés et qu'ils traînent en attendant que on donne une réponse et qu'ils puissent vivre, parce que une fois sur deux, on donne le statut de réfugié politique, grossièrement, c'est entre 30 et 50%. Donc ces gens-là vont vivre chez nous, mais pendant un an, ils vont perdre du temps, comme ils ont perdu du temps à faire ce voyage pour arriver chez nous. Et donc nous, c'est très important dans ce film, c'est cette dualité entre deux types d'accueil, qui est l'accueil des Français ou des gens qui vivent en France, dont on parle tellement peu, puisqu'on nous renvoie plutôt un message raciste, de problèmes d'intégration, etc., qui est autre chose, et cette réalité politique de non-accueil.
La force de ce film, c'est qu'on entend certains exilés raconter leur histoire. On ne le voit pas trop venir au début, ça cogne un peu, on ne s'y attend pas trop. Et puis d'un coup, on se retrouve en intimité dans la chambre d'un exilé, Salomon, qui est sur son lit, un Éthiopien, qui vient du nord de l'Éthiopie, près du Soudan. Et il va confier, très silencieusement, c'est très intimiste, à la caméra, très concrètement, il dit « En Éthiopie, le gouvernement a tué ma famille ». Ils ont tué environ 500 personnes. Là-bas, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de journal, il n'y a pas d'information. Ils peuvent arriver n'importe où et tuer 5 personnes. Personne n'en saura rien. Personne ne connaît la situation de personne. Voilà, c'est très concret. Et tous ceux qui ont accepté de se raconter à la caméra ont tous un éclair dans leurs yeux, et Salomon y compris, quand à la fin il dit, avec un sourire qui se dessine timidement, « Mais j'aime mon pays, si je peux y retourner, j'y retournerai. » Vincent Gollier, j'ai demandé à Vincent Gollier de revenir sur ce cas particulier de Salomon.
Pour raconter quelque chose qu'il n'y a pas dans le film et donc du coup que je réserve à vos auditeurs, Salomon, qui est l'Éthiopien dont vous parliez, on l'a pas dans le montage, mais à la fin de cette discussion où il nous dit en effet qu'il aimerait pouvoir retourner chez lui, et à ce moment-là il nous dit mais si jamais je retourne chez moi, j'espère que vous allez venir me visiter. C'est-à-dire que ces gens-là, et c'est ça qui est très important dans le film, c'est que quitter son pays, c'est un arrachement. C'est-à-dire que personne n'a comme projet de quand je serai grand, je serai migrant, je traverserai le désert, je traverserai la mer et je vivrai des allocations. Non, je veux dire, les gens, ils sont contraints à quitter leur pays, ils vont dans le pays d'à côté, puis ils vont un peu plus loin, puis au final, ils n'arrivent pas à trouver des solutions pour vivre, donc ils traversent la Méditerranée. Mais le projet, c'est bien de revenir un jour. Et c'est vraiment une réalité concrète. Ce monsieur, là, Salomon, il était préparateur pharmaceutique. Il a 45 ans, il a un métier, il a une maison. Qu'est-ce qu'il y viendrait foutre en Europe ? Je veux dire, c'est le pays, c'est tellement différent.
Je ne sais pas si on m'entend. Oui, on m'entend. Et donc, le film montre aussi des procédures administratives, la difficulté de communication, même si beaucoup d'entre eux parlent un peu anglais. Tous ces gens ont traversé plusieurs pays avant d'arriver en France. Ils sont beaucoup, pour beaucoup d'entre eux, passés par l'enfer de la Libye, d'ailleurs. Certains d'entre eux effleurent très légèrement le sujet dans le documentaire. Et tous se retrouvent, finissent quasiment tous, par se retrouver dans ce cas Dublin, qui consiste à considérer que le premier pays dans lequel ils ont déposé leur première empreinte est le pays qui doit prendre en charge leur demande d'asile. Ils sont passés par l'Allemagne, par l'Italie, ils ont fait un périple incroyable. Donc ils arrivent en France pour qu'on leur demande de repartir par là où ils sont passés, là même où on leur a demandé de partir. C'est absolument délirant. On écoute Vincent Gollier nous raconter un cas de figure emblématique qui est exposé dans ce film.
Nous, dans le film, il y a un cas exemplaire qui montre l'absurdité de cette situation. C'est Youssef, qui est tchadien, et qui donc a attendu en Italie que l'Italie gère sa demande d'asile. Les autorités italiennes ont fait leur boulot. Ils ont mis un an et demi à faire leur boulot, mais ils ont fait leur boulot. Ils ont refusé la demande d'asile, alors que lui, il est fils d'un officier opposant au pouvoir en place, qui est une dictature militaire. Donc il est quand même susceptible possible en effet d'être récupéré par ces autorités, mis en prison, si ce n'est pire. Et pourtant, l'Italie a refusé. Et je reprends le fil de mon récit. Et donc, il arrive en France parce qu'il a le droit d'arriver en France, parce qu'il a des éléments nouveaux pour faire sa demande d'asile et la loi lui autorise. Mais on va lui refuser de faire entendre cette réalité-là. C'est-à-dire qu'il a un papier dit en Italie qu'il est expulsé d'Italie et qu'il peut aller ailleurs ou retourner dans son pays. L'Italie n'essaye même pas de le renvoyer au Tchad. Et donc, il arrive en France et personne ne fait l'effort de traduire ce papier italien. Et donc, nous, on va l'avoir désespéré dans le film en disant, mais attendez, j'ai plein de papiers. D'ailleurs, c'est une blague qu'on fait souvent. C'est qu'on sent que, on dit toujours que c'est des gens qui sont sans papiers, mais en fait, non, ils ont plein de papiers, quoi, de différents organismes qui tentent de les aider, mais d'autres essayent de mettre des bâtons dans les roues. Et Youssef, il va attendre un an en France, parce que nous, on a gardé contact avec lui. Il va attendre un an en France. Il va rentrer dans une profonde dépression parce que il ne comprend pas qu'on ne traite pas son dossier. Ils attendent que l'Italie réponde sur « Non, non, vous devez retourner en Italie ». Et au bout d'un an, lui, il va craquer, il va aller en Angleterre. Donc prendre à nouveau le risque de traverser une autre mer qui est tout aussi inhospitalière que la Méditerranée. Il arrive et nous on sait que dès qu'il est arrivé, il a été tout de suite pris en charge, vu son état psychiatrique et qu'on lui a donné l'asile parce qu'en effet, il a pu prouver qu'il était bien fils d'opposant. Mais sauf que le mal fait par les autorités italiennes puis françaises ont été telles qu'aujourd'hui il est toujours dans un état de profonde dépression, donc c'est catastrophique, quoi.
Et la puissance de ce documentaire, donc, c'est qu'il n'y a aucun discours politique. C'est vraiment du cas par cas. On sort des pourcentages. On voit vraiment la difficulté que c'est des traitements. Quand on voit à la fin Youssef sortir tous ses papiers, sortir un papier italien, et le monsieur en face de lui, avec son ordinateur, dit « Non, mais moi, je ne lis pas l'italien, en fait. » Donc, au suivant, en fait. Donc, c'est que des situations très complexes, comme ça, nuancées, difficiles. Il n'y a que des histoires d'hommes qui tentent de trouver une vie. Ce sont eux-mêmes qui le disent, hein, avec leurs mots. Hein. Ils disent souvent mais la France est un bon pays, maintenant ça va aller. Il y a des gens qui travaillent voilà, à trouver des traducteurs, des médecins, à trouver des lits, des vêtements, à manger. C'est très concret. On est très loin du discours politique. Ce sont des hommes qui sont partis pour vivre. Et je ne sais pas si on peut dire vivre une vie meilleure, comme on le dit souvent, une vie meilleure. Parce que beaucoup ont quitté leur famille, leurs enfants. On voit d'ailleurs une scène, un exilé qui explique... intimement qu'il est parti, sa fille avait 6 mois, et un des réalisateurs lui dit « Et maintenant, elle a quel âge ?» Il dit « Maintenant, elle a 7 ans. » Voilà, donc ils quittent leurs enfants, leurs femmes. On en voit qu'ils chantent l'hymne de leur pays pendant qu'ils font la queue pour déposer une énième empreinte. Ça ressemble à ça, le film. Donc ils sont partis pour vivre tout court, je dirais. Et j'ai demandé à Vincent Gaulier de faire quand même un parallèle avec ce qu'il pense du traitement politique européen, de la façon dont est traitée cette crise migratoire.
En fait, le problème, c'est d'arriver à sortir du discours politicien. C'est-à-dire que cette question migratoire est l'otage de débats politiques qui sont à milieu de la réalité du terrain et de ce qui se passe. C'est-à-dire que loin de moi nier le fait qu'il peut y avoir des problèmes, qu'il peut y avoir des problèmes communautaristes, qu'il peut y avoir des problèmes d'agression, etc. Mais c'est anecdotique par rapport à une population qui, dans sa extrême majorité, travaille à s'intégrer, veut s'intégrer, c'est-à-dire qu'ils veulent vivre apaisés avec leurs voisins, etc. Et que tous les jours, la démonstration est faite de ça. Moi, je donne comme exemple la Pologne, qui est l'un des pays reconnus comme étant les plus racistes. Étonnamment, ça a été l'un des pays les plus accueillants quand il y a eu la crise ukrainienne. Et alors, bien sûr, il y a une proximité régionale, bien sûr, il y a une proximité religieuse, mais en fait, non, il y a un moment où ils se sont trouvés nez à nez avec des gens terrifiés qui fuyaient leur pays et où on voyait la guerre qui était là, quoi. Donc, dès que vous sortez de ce discours politicien et que vous faites appel, vous, à votre humanité, à votre ressenti, à ce que vous vivez, vous, dans le temps présent et pas de ce que certains vont vous raconter via des images ou des discours, du coup, vous redevenez des êtres humains face à d'autres êtres humains, quoi. Je donne souvent comme exemple l'Allemagne qui, au plus fort de la crise de la guerre en Syrie, a accueilli en quelques mois 800 000, 900 000 Syriens, où en effet, il y a eu des problèmes. Certains étaient des voyous, certains étaient des gens qui voulaient abuser de l'hospitalité, mais les 900, je dirais 890 000 Syriens qui sont arrivés, là, se sont intégrés rapidement dans les usines, chez les médecins, dans les hôpitaux, parce que en Allemagne comme en France, on manque de médecins. tout s'est bien passé. Et pour être cynique, rien que l'arrivée des Syriens, ça a créé un point de croissance supplémentaire à l'Allemagne, qui du coup a pu finir champion cette année-là de la croissance en Europe. Il y a un moment, il faut arriver à changer la lecture qu'on a de la migration, où ce n'est pas un problème, c'est une chance.
Film, pardon, voilà, je disais le film, on peut le voir, il était sorti en 2022, il ressort en salle depuis le 17 avril au Cinéma des Carmes, c'est un film hyper puissant. Là j'ai parlé de quelques cas, mais il y en a beaucoup d'autres. On suit vraiment des histoires des garçons qui arrivent, des hommes plus ou moins jeunes, plus ou moins âgés, qui racontent des histoires incroyables que nous, occidentaux, on a un mal fou à se représenter, en fait. Des vies, ils racontent la folie, le mal, la guerre, que nous on ne peut pas se représenter. C'est ça la puissance du film.
Très très bon reportage à Asma. Il y avait un peu de vent. Il y avait un peu de vent.
Oui, le son n'est pas très bon.
Mais très bon reportage. Que m'est-il permis d'espérer ? C'est le titre du documentaire, un film documentaire. J'ai bien envie d'aller le voir, effectivement. Alors, je ne vois pas les autres séances sur la page de... Ou alors, je me trompe. Page des cartes.
Sur les camis, ils passent.
Ils passent en ce moment. Ouais. Bon, voilà. Renseignez-vous vous-même. On dit bonsoir à Victor, qui vient d'arriver.
Bonsoir,
c'est ça. Attends, comme d'habitude. Voilà.
Bonsoir Hassan, bonsoir à toutes et à tous.
Je suppose que tu es passé par le bureau du principal.
Non, c'est juste, on est en train de discuter avec les salariés en bas des questions d'apéro audio.
Oui, c'est vrai, on a un apéro audio vendredi.
Il y a un apéro audio vendredi et samedi. Donc,
vous êtes à Orléans, venez nous voir, danser avec nous et boire un coup.
Et boire un coup.
En tout cas, tu as suivi la fin de l'interview, du reportage Asma.
Coup, c'était quand même très édifiant, très intéressant. Ouais. Après, c'est vrai que justement, la question... le truc qui est particulier avec l'immigration, en fait, c'est que la plupart du temps, les gens qui en parlent sont les gens qui les connaissent le moins. La plupart du temps, quand on a des experts à la télé ou des trucs comme ça, c'est des blancs bourgeois qui habitent à Paris et qui ne croisent jamais d'immigrés dans leur vie et qui vont nous faire des grandes questions statistiques ou des questions de grand remplacement ou ce genre de choses. Enfin, voilà, qui nous vomissent les théories d'extrême droite sur tous les plateaux télé. Et c'est vrai que du coup, c'est très bien de pouvoir remettre de l'humain dans tout ça, de se rendre compte que c'est pas juste des chiffres et des statistiques, mais que c'est vraiment des histoires personnelles, des personnes qui comme disait Asma, qui fuient qui sont obligées de fuir, qui doivent abandonner leur famille ou ce genre de choses pour pouvoir espérer avoir une vie meilleure. Et c'est vrai que du coup, c'était très touchant.
On leur conseille donc de croiser Vincent Gaulier. Oui, Steven ?
Non, je trouvais ça intéressant, surtout la question de l'accueil. L'accueil, c'est quelque chose de très compliqué. Je ne serais pas aussi optimiste à dire que l'accueil humanitaire est effectif en France, dans le sens où les associations qui accueillent, justement, qui font cet accueil humanitaire, elles ont très peu de moyens, en fait. Donc, c'est très compliqué. Elles font au mieux, c'est vrai.
Il y a quelqu'un qui dit il n'y a pas de problème d'immigration, il y a un problème d'accueil, je crois.
Oui, peut-être.
Comme il a raison.
Et puis l'accueil administratif, enfin, c'est une catastrophe. Hein. Les gens arrivent avec des tonnes de papiers. Moi, je les vois toutes les semaines, des gens arriver avec plein de papiers de plein de pays différents. Justement, tout ce qui est transfert Dublin, enfin, c'est une catastrophe. On balade des gens, en fait, de pays en pays. Tout le monde se les refoule, se les refourgue, comme si c'était, en fait, des biens, en fait, au final. Et on est vraiment sur plus de l'humain. Oui, c'est bien d'avoir des émissions comme ça, des films comme ça qui remettent ces questions-là au centre.
Un peu de musique et on revient vers toi, Steven. Un peu de musique pour penser à... C'est Salomon, hein,
l'Éthiopie. Salomon.
Écoutez ça, on part vers l'Éthiopie. We'll be right back. sais, mais avec escale à Bruxelles ou à Anvers, que sais-je. C'est ce groupe qui s'appelle Colonel Jafar, un groupe composé de jeunes belges qui adorent l'ethio jazz. C'est leur deuxième album qui s'appelle Getaway. Et à l'instant, sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours, Phil's First Tear.
Alors, les récits transfuges de classe
non,
pour.
Mais non, non, mais non, mais non, c'est pas tout de suite.
Attends. Ouais, attends.
Le truc. Tu nous teases.
Ouais, je voulais un jingle, en fait. Je voulais un jingle. En tout cas, oui. Tu es allé voir la conférence, c'était une conférence, c'était une présentation
c'était,
de livre.
Oui, une présentation de livre, conférence, appelez un peu ça comme vous voulez. Donc voilà, une présentation de son dernier livre, c'était...
De Laëlia Véron.
Laëlia Véron, oui.
Laëlia
Véron. Donc L-A, accent aigu, Laëlia.
Ouais, bon, voilà. Attends, j'écoute France Inter, moi.
Oui, bah, voilà.
Il appelle Laëlia, hein, donc...
Oui, excusez-moi, moi je suis allé voir un peu sur son...
Oui, parce qu'elle fait, elle est aussi animatrice, co-animatrice. Hein,
c'est ça, elle est linguistique, stylisticienne, mais maîtresse de conférences à l'Université d'Orléans et chroniqueuse à France Inter dans l'émission de Charline Vonnenecker. Et donc, tu ne veux pas nous...
Ah, tu veux que je passe le son maintenant?
Oui, vas-y. Soyons fous.
Oui, en même temps, ça sonne à la radio. Allez, Laëlia Véron.
Alors, les récits transfuges de classe, pour définir, ce sont des récits d'une forte mobilité sociale, de personnes ayant connu une forte mobilité sociale. Et pourquoi on a eu envie de travailler sur ce type de récit? Parce qu'on a l'impression que ça devenait un récit à la mode, un récit de société, et qui se développait dans différentes sphères de discours, c'est-à-dire en littérature. Notamment, on pense à Annie Ernaux, qui a le prix Nobel de littérature en 2022 et qui a été présentée comme l'égérie des transfuges de classe, qui a cité les récits transfuges de classe au moment du Nobel. Mais au-delà de ça, on voit une circulation de ce type de récits avec des schémas communs reconnaissables, un vocabulaire reconnaissable, trahir et venger, venger sa race, la honte d'avoir une honte, dans différentes sphères de discours, c'est-à-dire dans des discours, d'abord la littérature au sens large, la littérature feel good, la littérature populaire que des fois qui ne va pas à France Culture mais qui influence beaucoup de lectrices et de lecteurs, par exemple Aurélie Valogne, donc la littérature au sens large, mais aussi d'autres types de récits, des récits communs, des récits de soi, des manières de se définir et de se raconter. Et on peut les trouver encore une fois dans des sphères de discours différentes sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur LinkedIn, dans des sphères médiatiques. C'est une catégorie qui est très souvent proposée par les journalistes pour comprendre des récits ou des parcours. Dans tout ce qui est récit de soi, dans des discours politiques, des discours communs, des discours sociologiques, historiques, bref, ça circule. Et c'est aussi ça qui fait qu'un récit a de l'influence. C'est pas juste les deux, trois grands auteurs qui le portent, mais c'est le fait que beaucoup de personnes s'en saisissent.
Voilà. Laëlia Véron, donc, le titre, tu nous le rappelles.
Trahir et venger, paradoxe des récits de transfuges de classe. D'ailleurs, c'est bien que tu sois là, Victor, parce que transfuge de classe, ça doit te...
Ah bon ?
Bah non, je suis pas transfuge, moi je suis fils de bourgeois.
Non,
donc,
j'allais dire Bourdieu, etc.
Ah, bon, Bourdieu, oui, 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 la sociologie, tout voilà. Ça, ouais,
enfin, carrément. C'est ton domaine, quoi.
Moi, je suis un social trade. Donc, je suis pas un transfuge.
Un livre qui a été coécrit avec Karine Abiven, qui, elle, est maîtresse de conférences à l'Université de la Sorbonne. À cette occasion, elle a pu revenir sur les réflexions et analyses qui ont conduit donc à la parution de ce livre. Tiens, on y était, donc petit tour de table. Qui ici se considère comme transfuge de classe, Asma?
Je ne sais pas.
Non.
Non, du tout. Marine?
Je ne vais pas m'exprimer sur le sujet.
Hassan?
Comment ça?
Tu te considères comme un transfuge de classe?
Non, c'est pas un transfuge de classe, non, ça. Il vient d'une grande famille.
Bon, est-ce que quelqu'un peut au moins le définir?
Attendez, silence s'il vous plaît.
Ah.
Tu vois, je viens d'Afrique. Et je suis au micro de Radio Campus Orléans. Qu'est-ce que tu crois que ça veut dire?
Est-ce que quelqu'un peut définir du coup ce que c'est un transfuge de classe?
Un transfuge de classe, normalement, c'est quelqu'un qui est issu d'un milieu de classe dominée ou populaire et qui arrive à s'élever, en général grâce à l'école, dans un milieu plutôt bourgeois ou de classe dominante.
C'est ça, c'est un transfuge, c'est une personne qui, ayant connu une forte mobilité sociale, souvent ascendante. Effectivement.
Alors, comment il est, c'est lui le sociologue ce soir?
Mais toi, Steven, t'es un transfuge de classe?
Absolument. Pas.
Mais si, il assume pas.
Ce que pointent les autrices, bon, vous me laissez, c'est le phénomène de mode que sont devenus les récits transfuges de classe, des récits qui permettent de maintenir les classes sociales en état. La non-reproduction devient un instrument de la perpétuation de la reproduction. On change quelque chose pour que rien ne change.
Alors maintenant, comment expliquer que ces récits soient si séduisants? Vous savez, tous ces trucs de man-made self, d'auto-entrepreneurs à la con qui ont fleuri sur les réseaux sociaux, hein, ces mêmes gars qui t'expliquent pourquoi toi t'es une merde et pas eux. Par l'analyse des outils et des référentiels des discours, le livre interroge les ambitions des récits de transfuges de classe. Annie Ernaux, Albert Camus ou Édouard Louis, les récits de transfuges de classe mettent en avant celles et ceux qui ont connu une ascension sociale. On parle très peu de celles et ceux qui vivent un déclassement. Ou alors on en parle, ou alors c'est un déclassement relatif, voire très faible. Laïla Véron donc pointe du doigt une mise en scène de ces récits volontairement et consciemment très politique. Les récits de transfuges de classe circulent en apprêtant des schémas et des vocabulaires identiques. Hein, venger sa race, comme on a entendu, ou la honte d'avoir eu honte. Une critique que l'on peut soumettre quel que soit le milieu d'arrivée. Ces récits de transfuges de classe ont la particularité de traiter aussi bien d'enjeux collectifs, comme la place dans une classe, que d'enjeux plus intimes, comme la singularité des parcours, le rejet exprimé par la classe de départ, la paix intérieure durement acquise, le tout à des fins présentées comme politiques. Et cela même s'il raconte des conneries. Hein. Mmh. Elle n'hésitait pas à dire qu'on préfère un faux transfuge de classe qui réussit plutôt qu'un vrai transfuge qui échoue. Même s'ils ne le reconnaissent pas, tous ces récits ont des invariables. Ils se répondent et ils se nourrissent les uns des autres. Ils commencent souvent avec une figure paternelle, passent par l'école et ont demandé des efforts et une volonté incroyable. Ouais, ici, la chance, on s'en bat les quins. Hein. C'est la volonté, rien que la volonté. Yes, sir. Dans ces récits, on note un avant et un après Bourdieu. Donc c'est pour ça que je sollicitais notre Victor. Mais aussi bien soient-ils critiques ou partisans du sociologue, ils s'expriment tous avec les mêmes références. Elle notait aussi le passage du jeu au « nous ». Ces porte-paroles autoproclamées tentent de faire de l'intime un récit politique tendant vers le collectif. C'est un « nous », mais c'est un « nous » dépassant difficilement les systèmes de représentation. C'est quasiment mission impossible. Le livre suggère alors de changer de référentiel. Arrêter de tenter de montrer les limites de la méritocratie en prenant un exemple méritocratique. Ça n'a pas de sens. C'est vrai, les quelques miraculés du quartier sont-ils les plus légitimes pour en parler ? Ce que j'aime bien avec elle, du coup, c'est que l'autre apparaît comme une voie nouvelle, impossible pour réinventer le genre littéraire. Hein, parler des autres plutôt que de nous. Ce qui est également commun à l'ensemble de ces récits, c'est l'absence d'humour et d'ironie. Hein, les récits de transfuges de classe bannissent systématiquement toute critique satirique de leur propre récit. Ne me regardez pas, moi je rebondirai pas là-dessus. Hein. Les transfuges de classe semblent arborer beaucoup de révérence pour le milieu d'arrivée. Les critiques sont toujours adressées à la classe quittée. Si vous voulez mon avis, hein, c'est... Vous le voulez ? Bon, oui. Je vous le donne quand même. Hein. Oui. Pour moi, c'est de la lâcheté ou une grande hypocrisie et une vision très bourgeoise, hein, au final. Bon.
Il y a aussi un phénomène de passagers clandestins.
Tu commenteras après, s'il te plaît. J'attends. J'ai pas fini. c'est un peu long. Mais j'imagine que vous demandez donc pourquoi trahir et venger ? Parce que j'ai toujours pas expliqué le nom du livre. Eh bien, c'est parce que ce livre met en avant un paradoxe. Peut-on à la fois trahir les siens en changeant de classe, en adoptant d'autres valeurs, voire une autre identité, tout en prétendant les venger, en leur offrant un espace de représentation, en leur donnant une parole publique dont ils et elles sont privés. Ces récits mettent souvent en avant la violence symbolique, le fait de ne pas avoir eu le bon habitus, hein, pour reprendre une terminologie bourgeoisienne, le fait de ne pas choisir le bon couteau, par exemple. Bah ouais, parce que j'ai appris ça. Les bourges, ils ont 1000 couteaux pour leur repas. Ouais. Ça se voit, c'est pas eux qui font la vaisselle derrière. Hein. Moi, frérot, j'ai un couteau pour cuisiner, manger, et s'il est pas trop sale, un coup de salive et hop, au placard. Non, je déconne, j'ai pas de placard.
Au-delà... Tu vois que t'es un transfuge de classe.
Je vois bien.
Mais descendant, moi. Au-delà de ça, que devient la violence non symbolique ? La violence sociale, bien plus concrète. Hein. Que fait-on des inégalités économiques qui plongent des milliers de personnes dans la précarité alimentaire ? Cette violence, on en fait quoi, finalement, hein, ce mépris de classe ? Et passer le sentiment de honte d'avoir trahi sa classe vient l'esprit de vengeur. Quitter sa classe pour enfin la venger. Par le récit, la réhabilitation, le transfuge... se soumet l'idée de vengeance politique. Ouais, bah alors les Dark Sasuke, ça dégage. Hein. Vous voulez vivre comme des bourgeois, moi ça me casse les... Hein, quoi ? Non, c'est Naruto ça. Finalement, les récits de transfuges de classe comme style littéraire est très moderne. Ouais. Alors que la question c'est quel est l'avenir de ce style très contemporain ? Pour l'instant, les tentatives de renouvellement s'apparentent plus à des déplacements vers la race ou le genre. Bon, le genre, je vois bien, ça doit être des genres coming out ou changement de genre, et de sexe, etc. Mais pour la race, je me pose la question. Coucou maman, finalement je suis blanc. Ouais, bon, ça, c'est sûrement pas ça, je pense qu'il y a un truc que j'ai pas compris. Bon, au final, achetez le livre pour comprendre un petit peu de quoi il en retourne.
Merci de m'avoir écouté. Ouais. Rappelle-nous donc le titre.
Alors, le titre, c'est « Trahir et venger, paradoxe des récits transfuges de classe » de Laïlia Véron et Karine Abiven aux éditions La Découverte.
Tu as enregistré toute la conférence qu'on va retrouver très vite là.
Sur... Oui, oui, ça devrait sortir là, cette semaine, sur la Rédac Pop, avec aussi l'émission sur Gisèle Halimi.
Oui.
Que j'avais promis la semaine dernière et toujours
et qu'on a diffusé la semaine dernière, tu n'étais pas là évidemment, donc on va plus écouter. Monsieur n'écoute pas les podcasts non plus, donc non,
bon, bref, je fais ce que je peux.
Oui, c'est la page la Rédac Pop, c'est le média citoyen et participatif de Radio Campus avec des articles et du son.
Oui.
Par exemple, le dernier, on va le saluer, c'est
l'oublié qui est revenu d'outre-tombe, Daniel Begdad.
Daniel Begdad est revenu donc. Ouais. Alors, il a commis un.
Il nous a fait un très bel article sur le Vietnam.
Quand un poète dénonçait la colonisation française en Indochine, entendez-vous Jean du Vietnam par Jacques Prévert.
Exactement.
Ben, je vais aller lire ça ce soir. Okay, ouais. T'as également, mais il y a plein de choses. Allez voir, mes auditeurs.
Oui, on a fait quelques articles avec les temps modernes ces derniers temps. Bah, y a eu Hélène Dorion aussi, qui est une poète québécoise.
C'est ça.
Alors ça, c'est aussi Daniel. Et donc... C'est la première poète québécoise qui est enseignée à l'école, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, voilà, donc elle était présente. Et avant ça encore, on a eu Falmarès.
Falmarès, alors parle-nous un peu de Falmarès.
Alors Falmarès, c'est, on peut dire, un peu un héritier d'Édouard Glissant, bon, en quelque sorte. C'est un migrant, donc voilà, qui est un exilé.
Oui, oui, il arrive, il vient de Guinée.
Oui, de Guinée, ouais. C'est ça. Ouais. Et donc, il est passé par l'Italie et il s'est mis à écrire de la poésie.
C'est ça.
Et donc, de fil en aiguille, il en est arrivé à publier des recueils de poèmes, donc des poèmes sur son parcours, sur sa vie en Guinée, etc. Donc, bah, franchement, c'est aller découvrir.
Je n'ai lu que des super articles sur lui. J'ai vu le tien également sur la Rédac Pop, qui est pas mal du tout. Oui, je ne l'ai pas encore lu, mais je l'ai entendu dans des interviews. J'ai lu des papiers sur lui. Et il est jeune en plus. Hein.
Oui, oui, il est jeune. Il doit avoir une vingtaine d'années, un truc comme
c'est ça.
Enfin, ouais.
Ok. La Rédac Pop, hein, messieurs, dames.
Ouais, la Rédac Pop. Il y a d'autres trucs qui arrivent c'est bientôt. Très bientôt.
Oui, mais bien sûr, on va.
Toujours.
Ouais, et les Léa Véran, notamment.
Oui.
Ça va être la fin déjà. Ouais, bah si, ils sont là. Les...
Moi, je voudrais revenir éventuellement sur un truc qu'a dit Steven. C'est les transfuges de classe, du coup, auraient tendance à vomir leur classe d'origine plutôt que de critiquer la classe d'arrivée. En fait, la plupart du temps, ce qu'explique Loïc Vacan et beaucoup de sociologues bourdieusins, c'est qu'en fait, il faut essayer d'opérer un changement mental, mais vraiment extrêmement fort, pour pouvoir arriver dans une classe qui n'est pas la sienne. Enfin, qui n'est pas celle d'origine, parce qu'on a toutes nos habitudes, tout notre habitus, justement, qui a été conditionné par ça. Et du coup, en fait, c'est comme les personnes qui sont converties. C'est toujours les personnes qui sont les plus hardcore dans les discours, etc. et tout, parce que justement, elles doivent prouver leur légitimité par rapport aux autres, en adhérant d'autant plus au dogme dominant qui apparaît à ce niveau-là.
Les noirs qui deviennent flics.
C'est ça.
Mais hein, retire ça immédiatement.
J'ai rien dit. Je vois pas de quoi vous parlez.
Ouais, donc vraiment. Alors toi, tu es un bourdisien alors.
J'ai beaucoup lu de Bourdieu. J'ai lu La Distinction, bien évidemment.
Ouais, bien sûr.
Homo Academicus, qui était très intéressant aussi sur qu'est-ce que c'est qu'être un académicien en fait, être un homme issu de l'académie, etc. Et tout. C'était très intéressant aussi. Et si je vous conseille, alors parce que Bourdieu, c'est pas forcément très lisible.
Je pense que ça passe. Ouais.
Bah, franchement, faut avoir un peu de bagage quand même. Enfin, je trouve. Moi, après, si
un chouïa.
Mais si jamais vous avez envie de vous pencher sur du Bourdieu, je vous conseille de lire La Misère du Monde. Alors, le titre fait pas envie du tout, mais c'est un super bouquin qui parle de la misère à travers le monde et à travers les classes sociales et à travers les questions de genre, de race,
sur les transfuges. Je crois que j'avais Les Héritiers aussi.
Ouais, Les Héritiers. Ouais. Très bon.
Lisez Bourdieu.
Mais plus difficile.
Bourdieu. Merci Victor. On se retrouve maintenant la semaine prochaine ici à 19h. On va terminer cette émission en musique avant de passer le micro à Ride On, l'émission, vous savez, la meilleure émission de reggae du monde, avec les potes. les potes des Burning Heads. Les Burning Heads, c'est un groupe de punk orléanais. Ils sont là depuis 30 ans, plus de 30 ans même. Nouvel album. Ils font du punk évidemment et ils font aussi, ils sont très très bons quand ils font du dub comme celui-ci sur le nouvel album. Ça s'appelle Dark Romance. Merci à vous.
Merci à toi.